Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble au psaume 23, que beaucoup connaissent. Psaume 23, pour ceux qui le connaissent, on peut le dire ensemble. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen et amen. Vous voyez, l'émotion peut même faire oublier ces paroles si belles. Quel psaume merveilleux, c'est un psaume rempli de promesses, rempli de bénédictions, s'il ne plus de bénédictions. On pourrait prêcher des jours et des jours sur ce psaume, mais j'ai pas autant de temps que ça. Le psaume est rempli de tout ce que Dieu peut nous apporter. Sa présence, sa bonté, son onction, sa fidélité, sa douceur, son amour, tout est là. Les promesses sont là. Mais quand on lit bien ce psaume, si on fait bien attention, ce psaume, oui, nous dit qu'il y a des promesses pour nous, mais ces promesses sont pour ceux qui suivent leur berger. Ces promesses sont pour ceux qui répondent à l'appel du berger. C'est ce que nous dit ce psaume. Il nous parle des bénédictions que le berger va nous donner, mais il nous parle aussi des attitudes qui sont nécessaires pour que nous fassions partie du troupeau. Faire partie du troupeau du berger a ses exigences. Avant de recevoir certaines bénédictions, il faut passer par des chemins qui sont parfois difficiles. Avant les bénédictions, il y a la repentance. Avant les bénédictions, il y a l'obéissance. Avant les bénédictions, il y a la soumission. Avant les bénédictions, il y a le brisement. Ce ne sont pas des moments faciles, ce ne sont pas des choses simples, ce ne sont pas des choses par lesquelles nous avons humainement envie de passer, mais ces choses-là sont nécessaires si nous voulons recevoir les bénédictions que nous promet ce psaume. Ce psaume nous parle notamment donc de quatre attitudes qu'on va évoquer ensemble, quatre attitudes qui sont absolument nécessaires pour celui qui veut suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est Jésus, c'est mettre Jésus au centre de sa vie, c'est mettre Jésus au centre de son cœur. Connaissez le livre de l'Apocalypse qui nous parle des lettres qui sont envoyées aux sept églises. Et il y a notamment une lettre qui est envoyée à l'église de Laodicée, que vous connaissez peut-être, cette lettre qui dit, qui s'adresse à cette église, qui s'adresse aux chrétiens de cette église, ce sont les chrétiens des derniers temps quelque part, et cette lettre s'adresse à ces chrétiens en leur disant, vous avez un cœur tiède. Vous n'êtes ni froid ni bouillant, vous êtes tiède. Je crois que c'est ça, être éloigné de Dieu, être tiède. On a arrêté de suivre Dieu. On a arrêté d'obéir à Dieu. Peut-être qu'on n'a jamais commencé, mais on n'obéit pas. On n'écoute pas. On ne veut pas se courber. On ne veut pas obéir. On veut les bénédictions, mais on ne veut pas être brisé. On ne veut pas que ça coûte. Mais c'est à ce moment-là, je crois que c'est à ce moment-là, que le péché et le compromis rentrent dans notre vie. C'est à ce moment-là. C'est quand on dit non à Dieu. Quand on refuse. Quand on refuse de se courber. Et c'est le sens de ce psaume 23. C'est le sens de ce psaume 23 qui nous dit quelque part, si tu veux faire partie du troupeau de Dieu, tu lui dois l'obéissance. Tu lui dois l'amour. Tu dois le rechercher de tout ton cœur. C'est ça, faire partie du troupeau de Dieu. Alors la première attitude, je crois, c'est d'être sa brebis. Ça peut paraître simple, mais c'est la première phrase du psaume. L'Éternel est mon berger. Si tu déclares l'Éternel est mon berger, peut-il dire en retour que tu es sa brebis? Si on interroge le Seigneur, si tu interroges le Seigneur, Seigneur, suis-je une brebis pour toi? Que va-t-il répondre? Tu déclares qu'il est ton berger, mais es-tu sa brebis? Moi, cette phrase, quand je la prononce, l'Éternel est mon berger, tout de suite, ça réchauffe mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais l'Éternel est mon berger, c'est une déclaration qui nous remplit de sa présence, tout de suite. Quand je dis l'Éternel est mon berger, je me sens rassuré. Je sais qu'il est là. Je sais où je vais. Et je sais que où que j'aille, il est là et rien ne peut m'arriver. Mais si nous déclarons qu'il est notre berger, peut-il dire que nous sommes ses brebis? S'il nous regarde tous individuellement et s'il regarde notre assemblée, peut-il dire qu'il reconnaît en nous son troupeau et ses brebis? La brebis, c'est un animal très répandu, très connu. Il y a des brebis dans le monde entier. Et c'est un animal très aimé. Tout le monde aime les brebis. C'est un animal très affectueux. La brebis a cinq caractéristiques. Enfin, elle en a bien plus, mais je vais m'arrêter sur cinq caractéristiques en rapport avec le message d'aujourd'hui. La première caractéristique, c'est la brebis. C'est un animal dont on dit qu'elle a un instinct grégaire. Grégaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la brebis est faite naturellement pour vivre en troupeau. Elle est faite pour vivre en communauté. Vous ne verrez jamais une brebis vivre seule dans son coin. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un animal solitaire. C'est un animal fait pour vivre en communauté, en groupe. C'est sa nature. D'ailleurs, quand on les observe, vous verrez, elles sont tout le temps en petits groupes. Elles se serrent les unes contre les autres. Elles n'aiment pas la solitude. Elles ne sont pas faites pour ça. Deuxième caractéristique, elles sont calmes. Elles sont très calmes et elles sont dociles. Elles suivent le berger. Le berger fait obéir son troupeau. Des fois, on a des troupeaux immenses. Ça s'appelle des troupeaux de 500, 1000 brebis. Et on voit que le berger est obéi. Les brebis le suivent. Elles le suivent avec une grande confiance. Elles ont une grande confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'elles lui sont complètement soumises. Elles ont compris que le berger est leur guide. Elles ont compris qu'elles doivent leur survie dans la montagne à leur berger. Et parce qu'elles ont compris ça, elles le suivent les yeux fermés. Troisième caractéristique, les brebis sont inoffensives. Elles sont incapables de faire du mal. C'est dans leur ADN. Vous ne verrez jamais une brebis attaquer un autre animal. C'est un animal doux. C'est un animal inoffensif. La contrepartie, c'est que c'est un animal vulnérable. Une brebis ne sait pas se défendre. Elle ne peut pas se défendre. Si un prédateur l'attaque, la brebis ne sait pas se défendre. La seule stratégie que les brebis ont pour se défendre, c'est de fuir. Elles fuient en troupeau. C'est comme ça que des fois, vous verrez peut-être dans les actualités, vous ferez attention, on trouve des troupeaux de brebis au fond des ravins parce qu'un ours ou un renard a attaqué. Elles ne savent pas répondre à l'attaque, donc elles fuient. Et ça se termine au fond du ravin, malheureusement. Quatrième caractéristique, les brebis sont des animaux intelligents. Pendant longtemps, on a cru que les brebis étaient des animaux un peu idiots. Des études scientifiques ont montré le contraire. Les brebis sont des animaux très intelligents. Elles sont capables d'apprendre, elles sont capables de reconnaître. Elles reconnaissent le visage de leur berger. Elles reconnaissent aussi sa voix. Elles sont capables de tout ça. Et cinquième caractéristique, c'est plus physiologique, mais c'est très intéressant. Les brebis sont des animaux qui ont besoin tous les jours de boire une grande quantité d'eau. Au moins 5 litres et jusqu'à 10 litres, peut-être même plus, les journées où il y a des fortes chaleurs. Et elles ont besoin d'une eau, pas n'importe laquelle, elles ont besoin d'une eau fraîche et d'une eau pure. Vous ne verrez pas une brebis boire dans une eau boueuse, dans une flaque d'eau boueuse. Vous ne verrez pas une brebis boire dans une eau qui contient des algues, ce genre de choses. La brebis a besoin d'une eau fraîche et pure. Comment pourrons-nous avoir nous-mêmes un cœur de brebis? Parce qu'il faut un cœur de brebis pour suivre le berger. Nous avons naturellement un cœur dur, un cœur raide. C'est naturel chez l'homme. Et nous naissons comme ça. Le seul moyen pour avoir un cœur de brebis, c'est que Dieu brise notre cœur. Que Dieu brise notre cœur humain. C'est le seul moyen. Dieu brise les cœurs. Dieu brise les cœurs. Le diable ne brise pas les cœurs. Le diable détruit les cœurs. Mais Dieu brise les cœurs. Et pourquoi Dieu brise nos cœurs? Parce qu'il veut les reconstruire. Il veut reconstruire nos cœurs. Il veut nous donner un cœur de brebis. Il veut nous donner un cœur qui ressemble au cœur qu'ont ses enfants. Il veut nous donner un cœur qui ressemble à son cœur. Le brisement qui vient de Dieu, c'est la sanctification de nos cœurs. C'est la sanctification de nos âmes. Voilà le travail que Dieu fait en nous. Il nous brise pour nous corriger, parce que nous avons des défauts. Il nous brise pour nous rendre saints, La sanctification, c'est ressembler jour après jour et toujours un peu plus à Jésus. On ne peut pas faire partie du troupeau si on n'a pas un cœur de brebis. Sinon, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui est dans le troupeau et qui n'a pas le cœur de brebis, ça se voit, ça pose des problèmes. La brebis est un grand ennemi. Le cœur de la brebis est un grand ennemi, c'est l'ego. C'est notre moi, notre ego, notre orgueil. Ça, c'est notre grand ennemi. C'est le grand ennemi du cœur de la brebis. Mais la brebis a un ami. Et cet ami, c'est le brisement qui vient de Dieu. Quand on vient dans une assemblée qu'on n'a pas un cœur de brebis, on a encore un comportement qui n'est pas celui que le berger attend dans son troupeau. On va commenter, on va juger, on va critiquer. Et tu as vu celui-ci, et celle-là, tu as entendu ce qu'elle a dit, et ces deux-là, tu les as vus ? Ah, puis la chorale, t'as entendu, ça chante faux. Hein. Il y en a un qui chante faux, là. Et puis cette église, je sais pas, il n'y a pas d'onction. Voilà ce qu'on peut entendre d'un cœur qui n'est pas un cœur de brebis et qui vient dans le troupeau. Et celui qui pense comme ça ou celui qui réagit comme ça, en fait, le problème, il est chez lui. Le problème, il est dans son cœur. Le problème est dans son cœur. La parole dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Voilà ce que dit la parole. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Si tu vois quelqu'un qui est faible, va vers lui. Aime-le. Parle avec lui. C'est ça un cœur de brebis. Vous ne verrez jamais une brebis fuir un troupeau. Ça n'arrive pas. Une fois que la brebis est dans le troupeau, elle reste dans le troupeau. Vous ne verrez pas une brebis fuir pour s'isoler et mener sa vie tranquillement de son côté. Si tu es dans le troupeau, tu as obligatoirement un cœur de brebis. Et si tu n'as pas un cœur de brebis, demande-le à Dieu. On n'a jamais vu un berger s'occuper d'une brebis. Personne n'a jamais vu ça. Un berger s'occupe d'un troupeau. Être brisé, c'est aussi recevoir un cœur calme et docile. Je disais qu'on a un cœur naturellement dur, naturellement raide, naturellement mauvais. Quand Dieu brise notre cœur, il nous donne un cœur calme et docile, comme celui de la brebis. Il nous soumet à sa volonté. On a un exemple, nous, c'est Jésus. Jésus, il a passé sa vie à être brisé. Il a passé sa vie à soumettre sa volonté à celle de son Père. Dieu veut briser notre rébellion. Dieu veut nous donner un cœur docile. On n'a jamais vu un berger mener un troupeau de chevaux sauvages. Ça s'appelle autrement. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais ça s'appelle autrement. Le berger, il conduit un troupeau de brebis. Dieu veut briser notre rébellion et il a raison de le faire. Il a raison de vouloir le faire. Nous avons tous besoin de travailler nos caractères. N'est-ce pas ? Tous. La brebis ne peut pas vivre sans le berger. Je disais qu'elle est inoffensive et puis elle est vulnérable. La brebis sait qu'elle ne peut pas vivre sans le berger. Dans la montagne, le berger, c'est le salut de la brebis. Et la brebis le sait. Le berger joue un rôle crucial dans sa vie, comme Jésus joue un rôle crucial dans sa vie, dans notre vie. Nous qui sommes ses brebis, nous savons que sans lui, nous sommes perdus. Il nous abreuve. Chaque jour, il nous abreuve de son eau vive. Les brebis ont besoin d'une eau, tous les jours renouvelée. Et il nous abreuve tous les jours de son eau vive, par sa parole, par son esprit, par sa présence. Et si tu as soif, si tu ressens cette soif, c'est qu'il t'appelle, c'est que le berger t'appelle. Il nous appelle par notre nom. Sa parole le dit. Il nous appelle par notre nom. Et les brebis, nous qui sommes ses brebis, nous savons le reconnaître, nous le reconnaissons. Et si tu reconnais sa voix, c'est qu'il t'appelle. Si tu n'étais pas sa brebis, tu ne reconnaîtrais pas sa voix. Si tu reconnais sa voix, c'est que tu es sa brebis. Le deuxième trait de caractère, c'est se laisser diriger. La deuxième attitude qu'il est nécessaire d'avoir pour être dans le troupeau, se laisser diriger. Quand tu dis « il me dirige près des eaux paisibles », est-ce que tu as bien conscience que tu lui dis « tu diriges ma vie » ? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu dirige ta vie ? Et est-ce que tu as vraiment envie d'aller près des eaux paisibles ? Les brebis sont des animaux naturellement peureux. Elles sont peureuses. Elles sont inquiètes. Et dès qu'il y a un danger qui s'approche, elles sont en panique. Elles stressent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les brebis quand elles remuent la tête un petit peu partout. Elles ne savent plus dans quel sens il faut aller. Elles ont besoin de la direction du berger. Et elles s'y soumettent volontiers. Les brebis ne sont pas rebelles. Si le berger dit « on va à droite », elles vont à droite. S'il dit « on va à gauche », elles vont à gauche. On s'arrête, elles s'arrêtent. On repart, elles repartent. Il y a un rapport de confiance entre la berger et le brebis, qui est une confiance totale. La brebis fait confiance, les yeux fermés, à son berger. Il peut l'amener n'importe où. Le berger travaille nos cœurs. Dieu travaille nos cœurs de plein de façons différentes, avec plein d'outils différents. Dieu peut travailler nos cœurs premièrement par sa parole et par son Saint-Esprit, par la puissance de sa parole, par la Bible. Dieu peut nous déranger, Dieu peut nous révéler des choses. Il peut briser nos cœurs, ne serait-ce que par sa parole. Il peut aussi nous briser par la conviction de son Saint-Esprit dans notre âme. Le Saint-Esprit peut nous communiquer dans notre âme une pensée, une idée, une parole qui peut nous briser. Il peut nous briser, Dieu peut nous briser par les circonstances dans nos vies. C'est souvent le cas, par des épreuves, par des maladies, par des combats. Il peut nous briser, on le voit aussi dans la Bible, par un esprit, par un démon. C'est ce qui s'est passé avec Job. Dieu dira à Satan, je te livre mon serviteur Job. Il ne permettra pas qu'il lui fasse du mal, dans une certaine mesure. Mais Satan attaque Job parce que Dieu le lui permet. Dieu peut nous briser par des hommes spirituels, bien sûr, dans l'Église, par notre pasteur. Dieu peut nous briser comme ça. Dieu peut nous briser aussi par des hommes charnels. Il peut utiliser des hommes charnels. Dieu peut nous briser. Dieu, parfois, met sur notre route des personnes qui ont un très fort caractère et on va devoir y être soumis. Ça peut être le cas dans le travail. Ça peut être le cas dans des activités. Ça peut être le cas si on va au guichet, à la banque, à la gare, ou je ne sais pas où. Des fois, on va se retrouver avec une personne très dure. Tout simplement. Tout à l'heure, on peut sortir du culte, prendre notre voiture, rouler un petit peu, et puis il y a notre voiture qui vient, qui nous coupe la route, on met un coup de klaxon, et l'autre conducteur nous insulte. Et nous, on répond. Vrai ou pas vrai? Ça arrive, ça. Dieu nous montre de plein de façons différentes, même par l'homme charnel en face, il ne sait même pas qu'il est en train de te briser. Il ne le sait pas. Mais dans plein de situations différentes, Dieu nous montre quoi? Il nous montre notre orgueil. Il nous montre notre impatience. Il nous montre notre manque de maîtrise. Il nous montre tout ça. Et petit à petit, Dieu travaille nos cœurs. Et petit à petit, Dieu nous amène à nous rendre compte de la nature de notre cœur, ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs. Dieu peut nous briser dans notre propre famille. Dieu peut nous briser par notre conjoint. Dieu donne une femme à un mari, pas forcément pour lui briser le cœur, mais ça y contribue. La femme peut briser le cœur de son mari. Le mari peut briser le cœur de sa femme. Dieu aime le mariage. Dieu aime l'homme et la femme. Dieu les a unis pour le bien, pour le meilleur, pour l'amour. Mais il sait aussi qu'en les unissant, ils vont se briser l'un et l'autre. On dit que le témoignage d'un homme, il est dans la bouche de sa femme. Et inversement, le témoignage de la femme est dans la bouche de l'homme. Dieu a uni l'homme et la femme pour qu'ils soient complémentaires et qu'ils s'élèvent l'un et l'autre dans le mariage. Et on peut se briser l'un et l'autre par amour, dans l'amour. Et c'est nécessaire. On peut entendre des reproches tous les jours. Moi, j'entends des reproches tous les jours. Et je rends grâce à Dieu pour ces reproches. Parfois, c'est dur. J'ai du mal. Et je me dis que c'est pas normal d'entendre ces reproches. Mais je me dis aussi dans mon cœur, vraiment, je me dis dans mon cœur qu'il y a une part de vérité. Dieu me travaille comme ça. Dieu peut nous travailler aussi par nos enfants. Quand les enfants sont petits, Dieu nous travaille par la patience, par la maîtrise de soi, par la bonté, la bienveillance. Il brise nos cœurs au travers de nos enfants. Puis les enfants grandissent. Et un jour, c'est les enfants qui nous apprennent des choses. Dieu nous travaille encore. Il brise notre cœur. Il nous apprend l'humilité. Et puis les enfants continuent de grandir. Et quand vous regardez vos enfants, Dieu révèle des choses à votre cœur. Quand vous regardez vos enfants, Dieu vous montre le père que vous avez été ou la mère que vous avez été. Et Dieu peut encore briser votre cœur comme ça. On a tous besoin d'être brisés. Tous. Même si c'est dur, même si ça fait mal, on en a besoin. La Bible emploie une expression pour les hommes durs, les hommes au cœur dur, c'est les courreds. Vous connaissez cette expression qui était beaucoup utilisée pour parler du peuple dans le désert. Le rebelle, lui, refuse de changer. On est rebelle de nature, on est rebelle de naissance. Quand vous tournez vers un enfant, vous lui dites « viens avec moi, on va aller ranger la vaisselle. »« Non, je vais jouer. » Alors, fais tes devoirs. Non, je veux pas, je veux aller me promener. Et les enfants sont naturels et les enfants sont rebelles. Moi, j'ai eu un cœur rebelle toute ma vie, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais 32 ans. Ça veut dire quoi? Que pendant 32 ans, j'ai un cœur qui s'est endurci. Et un cœur dur de 32 ans, c'est un cœur très dur. Donc il faut le briser et le briser encore et encore. Et Dieu fait un travail, et Dieu n'a pas fini. Et c'est vrai pour chacun de nous. Nous sommes nés rebelles. Et tout le temps où nous avons vécu loin de Dieu, rebelles à Dieu, nous avons endurci notre cœur. Et il est encore temps de retourner à Dieu. Mais Dieu va briser ce cœur. C'est absolument nécessaire, parce qu'un berger ne peut pas conduire un troupeau de cœurs durs. Un berger conduit un troupeau de cœurs malléables. Un cœur malléable, c'est un cœur qu'on peut diriger. C'est un cœur qu'on peut orienter. C'est un cœur à qui on peut montrer des choses et qui va les comprendre. Qui va savoir prendre du recul, qui va savoir changer d'avis. C'est ça un cœur malléable. Une dernière chose par rapport à l'eau paisible, c'est que le berger nous conduit près des eaux paisibles. Et je crois que c'est volontairement que le berger nous conduit près des eaux paisibles. En montagne, il y a les eaux paisibles et il y a les eaux agitées. Quand vous allez à la source d'un torrent, l'eau est agitée. Mais là, le berger conduit les brebis près des eaux paisibles. Ça nous parle de tranquillité. Ça nous parle de verdure, ça nous parle de repos, ça nous parle de tout ça. Mais moi, ça me parle aussi quand je m'approche d'une eau paisible et je vois la brebis qui s'approche de l'eau paisible. Et quand la brebis s'approche de l'eau paisible pour s'abreuvoir, elle voit son visage. Quand on s'approche d'une eau paisible, on voit son visage, on voit son reflet. L'eau est un miroir. Dans Jacques, chapitre 1, verset 23, il est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Je ne sais pas vous, moi je connais ce sentiment d'avoir vécu loin de Dieu, de m'être approché de l'eau paisible et de voir le reflet de mon visage. Et je savais bien que je vivais loin de Dieu. Et je savais bien où était la vérité. Je savais bien où était le chemin pour moi. Mais je ne voulais pas le voir. Alors je faisais comme l'homme qui est décrit par Jacques ici. Je partais et j'oubliais aussitôt qui j'étais. Et ce dont je me souviens, parce que ce n'est plus le cas bien sûr, mais ce dont je me souviens, c'est qu'à cette époque, je n'aimais pas quand Dieu m'amenait près de cette eau paisible où je me voyais dans un miroir. Je détestais ces moments-là. Mais je sais aussi que dans ces moments-là, Dieu avait commencé à briser mon cœur. La troisième attitude, c'est de se laisser conduire. Se laisser conduire. Quand on récite le psaume 23, on dit « Il me conduit sur les sentiers de la justice ». Mais acceptons-nous d'être conduits. Acceptons-nous de ne pas décider nous-mêmes où nous allons. Parce que quand on est conduit, on ne décide pas. Si on monte à l'arrière d'un taxi, c'est le taxi qui conduit. Est-ce que vous connaissez le prophète le plus désobéissant de la Bible ? Jonas. Jonas. Voilà un homme qui refusait d'être conduit. Jonas. Alors Jonas, c'est un prophète, un appelé de Dieu, et Dieu lui dit, Jonas, tu vas aller à Ninive. Tu vas aller à Ninive. Il y a là-bas, à Ninive, il y a une ville corrompue qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et c'est toi, Jonas, qui vas aller à Ninive et porter cette parole pour sauver les habitants de la ville. Et Jonas dit non, moi je vais aller à Tarsis. La parole de Dieu dit qu'il a fui, il s'est enfui, littéralement. Il s'est enfui et il voulait partir loin de la face de Dieu. Donc il devait aller là-bas, il est parti là-bas. Donc ça, si ça, c'est pas refuser d'être conduit, je sais pas comment ça s'appelle. Donc Jonas, il a voulu partir à Tarsis. Et pour ça, il fallait prendre un bateau. Donc Jonas prend le bateau, il monte dans le bateau, et pendant le voyage, Dieu déclenche une tempête. Une très forte tempête. Alors dans Jonas chapitre 1, verset 5, nous lisons « Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. » Les marins ont peur, forcément, la tempête est là, tempête très violente. Et alors Jonas va leur expliquer en leur disant « Cette tempête, elle est là à cause de moi. Pourquoi ? Parce que je fuis Dieu et tant que je serai dans ce bateau, la tempête se déchaînera. » Et il leur dit « Jetez-moi par-dessus bord. » Et très certainement, la tempête va se calmer. Donc un peu plus loin, au verset 14, il est dit « Alors ils invoquèrent l'Éternel. » Les marins invoquent l'Éternel. Ils invoquent l'Éternel, pourquoi ? Ils implorent son pardon parce qu'ils vont jeter Jonas par-dessus bord. Donc très certainement, Jonas va mourir. Et donc, par avance, les marins demandent pardon à Dieu. Et un peu plus loin, au verset 16, une fois qu'ils ont jeté Jonas, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jonas est dans la mer, donc il va être englouti par le poisson. Et là, dans le poisson, ce qui va se passer, c'est que Dieu va briser son cœur. Dieu va briser son cœur désobéissant. Jonas dira, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Dieu va faire de Jonas son instrument pour aller sauver Ninive. Jonas ne voulait pas être cet instrument. Il a fui, il s'est enfui, il a désobéi. Il ne voulait pas être conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans les sentiers de la vérité, dans les sentiers de la droiture, dans les sentiers du plan de Dieu. Il ne voulait pas être conduit dans ce sentier-là. Voilà pourquoi il est parti à Tarsis. Mais Dieu l'a rattrapé. Et Dieu l'a ramené dans son plan. Et Dieu est en train de lui briser son cœur. 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Ce que je voulais noter, et c'est pour ça que je voulais qu'on passe ensemble les versets qui parlent des marins, c'est que on voit le travail que Dieu a fait avec Jonas. Jonas était désobéissant. Il a voulu partir à Tarsis. Mais le plan de Dieu, c'était que même dans sa désobéissance, Jonas, entre les mains de Dieu, est un outil, il est un instrument pour sauver les marins. Au début, les marins imploraient leur Dieu. Ce qui veut dire que les marins étaient idolâtres. Les marins étaient tournés vers d'autres dieux. Et puis, ils invoquent l'Éternel, et puis ils finissent par faire un sacrifice à l'Éternel. Dieu avait besoin de la désobéissance de Jonas pour sauver les marins, et c'est ce qu'il a fait. Malgré sa désobéissance, Jonas a été un instrument entre les mains de Dieu pour sauver les marins. Dieu nous utilise, quel que soit ce que nous avons dans notre cœur, même si nous sommes rebelles, même si nous sommes désobéissants, même si nous ne voulons pas être conduits sur les sentiers de la justice, Dieu nous utilise. Dieu va nous utiliser et Dieu va briser notre cœur comme ça. Jonas se rend compte qu'il n'a plus le choix, il doit être totalement soumis à Dieu parce que Dieu fait de lui ce qu'il veut, quand il veut. C'est le cas pour nous aussi. Si nous refusons de nous laisser conduire par Dieu dans ses sentiers, il va nous briser encore et encore. Et ça fait mal, ça fait très mal. Le problème, c'est qu'à force d'être désobéissant, et c'est ce que dit le psaume 23, il arrive un moment où on peut atterrir dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, c'est plus la même histoire. Tant qu'on est sur le sentier de la justice, Dieu nous conduit. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est différent. Il nous faut absolument, à ce moment-là, le secours de Dieu. On ne peut pas sortir nous-mêmes de la vallée de l'ombre de la mort. C'est impossible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est la quatrième attitude, celle de se laisser corriger. Acceptes-tu d'être redressé, d'être corrigé, d'être rattrapé par Dieu ? Alors on peut, Vanny, s'il te plaît, je crois qu'on peut afficher une petite photo. Ça concerne la houlette, voilà, la houlette. Alors, j'ai proposé cette photo parce que moi-même, je ne savais pas vraiment ce que c'était une houlette, j'avais une vague idée, mais ça, c'est une houlette. Donc ça, c'est un instrument de berger, c'est un outil de berger. C'est un peu le couteau suisse du berger. Avec une houlette, le berger peut faire plusieurs choses. Déjà, c'est une pelle. Donc avec la pelle, il creuse quoi ? Des mottes de terre, parce que quand une brebis s'en va un peu trop à l'écart du troupeau, il creuse une motte, il jette la motte dans la direction de la brebis et elle comprend qu'elle doit revenir dans le troupeau. Ensuite, il y a le petit crochet à droite. Donc ça, c'est le crochet qui permet au berger d'attraper la brebis par la patte quand elle s'échappe et qu'elle s'éloigne du troupeau. Et puis, il y a le bâton. Alors, le bâton, on ne le voit pas, mais donc il est au bout de l'outil. Donc le bâton, pour le berger, il a deux fonctions. La première, il s'appuie pour marcher, pour avancer. Puis la deuxième fonction, si un prédateur s'approche d'une brebis, il peut donner un coup avec. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un berger, frapper une brebis. Vous ne le verrez jamais. Les bergers ne frappent pas les brebis. Les bergers aiment les brebis. Voilà donc cet instrument qui est très particulier. C'est vraiment un instrument propre aux bergers. Et cet instrument, il a plusieurs fonctions. On peut s'en servir de plusieurs façons. Je disais qu'on peut frapper les prédateurs avec, mais on peut aussi rattraper les brebis. Ça veut dire qu'avec le même instrument, on peut faire des choses de différentes natures. Et ce qui compte, c'est qui se sert de l'instrument et dans quelle intention il s'en sert. Dieu se sert de cet instrument pour nous corriger, pour nous rattraper, pour nous avertir. Je crois que le bon berger, il a un objectif, c'est de nous élever. Quand Dieu brise nos cœurs, c'est pour nous élever. Je disais que le diable veut nous détruire, mais le Seigneur, lui, quand il détruit nos cœurs, c'est pour nous élever. Le travail du berger, la mission du berger, c'est prendre son troupeau en bas, dans la vallée, et le faire monter tout en haut. C'est le travail du berger. C'est ce qu'on appelle l'estive. Le berger amène le troupeau pendant toute une période, avant l'été. Donc il amène le troupeau tout en haut de la montagne. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va trouver l'herbe verte. C'est là qu'on va trouver la tranquillité. C'est là qu'on va trouver la douceur. C'est là que le troupeau va être en paix. Et nous, souvent, nous faisons des prières et nous demandons à Dieu de nous élever. Mais nous ne demandons pas l'élévation qu'il faut. Nous demandons de l'argent, nous demandons un travail, nous demandons une position sociale, nous demandons des diplômes, nous demandons des choses qui, dans ce monde, vont nous positionner. Et ce n'est pas l'élévation que veut Dieu pour nous. C'est le contraire. Si Dieu nous donnait tout cela, qu'est-ce qui lui garantit que cela ne nous remplira pas d'orgueil? Qu'est-ce qui garantit que nous ne serons pas remplis d'orgueil? Et c'est le brisement. Dieu va nous briser jusqu'à ce qu'il puisse nous donner certaines choses. Et Dieu va nous élever là où lui veut nous élever. Dieu nous confie des missions, Dieu nous confie des services, Dieu nous confie des travaux. Et parfois, il faut commencer par des petites choses. Et puis, en servant avec un cœur humble et un cœur reconnaissant, Dieu nous voit. Et petit à petit, Dieu va nous donner un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Dieu avait prévu de donner Canaan au peuple d'Israël. Mais ça a coûté 40 ans de brisement au peuple dans le désert. Dieu a brisé même son propre fils. Il l'a brisé. Comme personne n'a été brisé. Pourquoi ? Parce qu'il avait prévu de l'élever jusqu'au rang le plus haut. Proverbe 15:33 nous dit « L'humilité précède la gloire. » L'humilité précède la gloire. Plus tu acceptes le brisement, plus Dieu va t'élever. Plus vite tu acceptes le brisement, plus vite Dieu va t'élever. Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls. Il a promis. Il est avec nous chaque jour. Son Saint-Esprit est avec nous. Je crois que la houlette du berger, c'est le Saint-Esprit. Moi, je le comprends comme ça. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis en danger, je crois qu'il y a cette houlette qui m'avertit. Il y a ce Saint-Esprit qui est là pour me rattraper, pour me retirer de cet endroit où je ne devais pas être. Il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune frère qui me disait « Souvent, je suis sorti le soir dans Toulouse et à chaque fois que je suis rentré, je me suis dit que Dieu avait fait un miracle. » Quand nous sommes dans des endroits où nous ne devrions pas être, nous pouvons compter sur la présence de Dieu, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Pour terminer, je voudrais partager deux versets. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et puis, un peu plus loin, au verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et elles me connaissent. Quand tu t'approches de Jésus, qu'est-ce que tu vois en toi ? Qu'est-ce qu'il te révèle ? Quand Dieu travaille ton cœur, quand il brise ton cœur, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu ressens de la joie ? parce que tu t'approches de lui, ou est-ce que tu ressens de la peine parce qu'il y a trop de choses dans ce monde que tu dois laisser maintenant? Est-ce que suivre Jésus pour toi c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est une joie? Ou à l'inverse, est-ce que ça te rend triste? Est-ce que ça te fait de la peine? Je crois que pour chacun de nous, il y a un niveau où Dieu veut nous élever. Dieu a prévu quelque chose. Il y a un niveau où Dieu veut nous élever. Il y a un endroit où, comme pour le troupeau, il y a une abondance de paix, il y a une abondance de vie, il y a une abondance de tranquillité, d'amour. Et Dieu a prévu de nous élever là-haut. Mais pour cela, il faut accepter de laisser tout ce qui a fait durcir notre cœur. Il faut accepter de laisser de côté notre orgueil, notre moi, notre ego. Il faut laisser Dieu travailler et agir en nous. Dieu nous dit simplement ce matin, laissez-moi m'occuper de vous. Laissez-moi être votre berger. Laissez-moi vous conduire. Donne ton cœur à Jésus. Laisse-le travailler dans ton cœur. Oui, c'est vrai, il va briser ton cœur. Mais il veut t'élever. Il veut te reconstruire. Il veut te donner un cœur nouveau. Il veut te donner un cœur de brebis. Et il veut t'accueillir dans son troupeau. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts, fermer nos yeux et puis on va prier ensemble? On va demander à Dieu de nous bénir. Seigneur, c'est vrai, nous avons vécu loin de toi tellement longtemps et nous avons perdu le fil de cette relation avec toi. Alors s'il te plaît, montre-nous le chemin pour te rejoindre, Seigneur. Montre-nous le chemin qui va nous rapprocher de toi. Ô Seigneur, conduis-moi, conduis ma vie. Je te remets ma vie en toute confiance, Seigneur. Ô Jésus, travaille mon cœur, transforme-le. Brise-le pour le rendre doux, pour le rendre docile, pour le rendre semblable à celui d'une brebis. Ô Seigneur, j'accepte de te suivre. J'accepte humblement de te suivre et de demeurer près de toi. Je veux te confier ma vie. Je veux te confier mes projets. Je veux te confier mon avenir entier. Et surtout, je veux tirer un trait définitif sur mon passé, sur mes erreurs, sur mes choix. Je veux marcher à ta suite. Merci Seigneur pour les eaux paisibles. Merci pour les verts pâturages. Merci Seigneur parce que tu restaures mon âme. Oh oui Seigneur, j'accepte ce cœur nouveau que tu veux me donner. J'accepte cette direction que tu veux donner à ma vie. Viens maintenant, Seigneur, travaille en moi. Ne me laisse pas en bas dans la vallée, ô Seigneur, mais que je puisse avec le troupeau rejoindre les hauteurs. Merci pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Alléluia. Seigneur, te rendons grâce, nous te remercions pour ton amour. À toi soit l'honneur, la gloire et l'adoration de nos cœurs. Amen.